Je vous invite à prendre place, on va commencer. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous visitent aussi. Soyez, sentez-vous accueillis. Alors, une petite information. Donc, vous savez que c'est les cultes d'été, donc les enfants restent avec nous. Donc, on invite aussi à tous les parents qui n'ont pas d'enfants à être patients aussi pendant ce culte. Et ceux qui ont vraiment des petits-enfants, on a prévu dans la maisonnette en face une retransmission en Zoom avec une tablette ou un ordi. Parce qu'il faisait chaud dans l'aquarium à côté, donc là-bas c'est climatisé. Donc, là je ne vois pas de poussette, donc c'est que ça a dû partir déjà là-bas. Donc tant mieux. Enfin voilà, c'était pour le petit côté technique. Donc ce culte va se dérouler avec une présidence où je vais vous proposer un sujet qui va avoir le fil conducteur tout au long du culte jusqu'à la fin, pendant la prédication. Et à la fin, on fera la Sainte Cène et je vous dirai aussi quelques annonces pour notre vie d'église. Donc pour cette introduction de ce culte, je vous propose ce thème qui est le zèle d'un adorateur. Élie et son chemin de sanctification. Alors, on connaît Élie, enfin pour la plupart, Élie, le prophète, le feu, le Carmel, voilà, c'est... des choses miraculeuses qu'Élie a fait. Là, je vous propose une vision d'Élie un peu différente. En tout cas, je vais commencer ce culte par la prière. Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons encore dans ce lieu. C'est un privilège, Seigneur, que nous pouvons nous rassembler. C'est un privilège que nous pouvons ouvrir ta parole. Seigneur, on sait aussi que ta parole ne revient pas sans effet, Seigneur, et on te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, et que l'on puisse t'offrir ce culte, et qu'il te soit d'odeur agréable. Amen. Donc, si nous sommes ici ce matin, nous sommes sûrement venus avec nos joies, nos combats, nos questions, et peut-être aussi avec quelques découragements. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons tous le même besoin, rencontrer Dieu. Car lorsque une femme ou un homme rencontre véritablement Dieu, eh bien il ne repart jamais comme il est venu. Donc j'aimerais commencer par une question pour les enfants, pour les adultes aussi. Qu'est-ce que le zèle ? Comment on peut interpréter ou expliquer le zèle ? Ça vous parle ? C'est pas un zeste, hein ? C'est pas un zeste de citron, le zèle. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Alors les adultes, je vous écoute. C'est quoi le zèle ? Être content. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle fort ? Qui chante fort, qui fait énormément de choses. En tout cas, c'est souvent... je me souviens d'un frère qui s'appelait Aurélien, et quand il présidait, il s'asseyait là, et il n'avait pas de micro, mais il chantait plus fort que les musiciens. Et on sentait qu'il était vraiment zélé dans son adoration. En tout cas, c'est souvent ainsi que nous définissons le zèle. Mais est-ce ainsi que Dieu le définit ? La Bible nous montre que le véritable zèle ne commence pas dans nos mains ou dans nos moyens. Il commence dans notre cœur. Le zèle, c'est un cœur qui aime tellement Dieu qu'il désire lui appartenir entièrement, pleinement. Et c'est précisément ce que Dieu recherche. Écoutez ce que Jésus dira à la femme samaritaine. Mais l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Remarquons bien cette parole. Jésus ne dit pas « Le Père cherche d'abord des prédicateurs, des musiciens, des responsables, des anciens ou des serviteurs très actifs. » Il cherche des adorateurs. Et en préparant donc cette présidence, une pensée m'a profondément interpellé. Où Jésus prononce ces paroles ? À la femme samaritaine, facile. Au puits de Jacob, en Samarie. Et pourquoi cette remarque ? Parce que plusieurs siècles auparavant, cette même région était devenue le symbole de l'infidélité envers Dieu. Dans 1 Roi 16, verset 29, nous lisons que Achab, donc roi d'Israël, règne sur la Samarie. Et sous son règne, le peuple abandonne progressivement l'Éternel pour adorer Baal. L'idolâtrie envahit le pays, les autels de Dieu sont abandonnés, retournés, la fidélité devient rare. Et c'est précisément dans ce contexte que Dieu appelle Élie. Élie se présente devant Achab avec une déclaration extraordinaire. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, lui que je sers, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf à ma parole. Élie rappelle au peuple qui est le vrai Dieu, puis les siècles passent et Jésus revient en Samarie, et cette fois il ne vient pas annoncer un jugement, il vient relever le cœur du Père. Le Père cherche des adorateurs. Quelle belle continuité dans toute cette Bible que nous lisons. Au temps d'Élie, Dieu cherchait déjà un peuple fidèle au milieu de l'idolâtrie. En Jésus-Christ, nous découvrons pleinement ce que Dieu recherchait depuis le commencement. Il est l'exemple parfait. Des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi notre thème aujourd'hui n'est pas seulement Élie, notre thème c'est le cœur que Dieu façonne. Car Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui travaillent pour lui, il recherche des adorateurs et qu'il transforme progressivement à l'image de son Fils. Voilà un peu le thème conducteur que je vais essayer de vous partager tout au long de cette matinée. Et pour cela, je vous invite à chanter le chant dans J'aime 463, c'est « Nous t'adorons ». Alors avant toute chose, faisons ce que le Père recherche. Prenons le temps de l'adorer, non pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et un jour, Élie remarque que le niveau du torrent baisse, que chaque matin, il y a un petit peu moins d'eau, jusqu'au moment où le torrent est complètement à sec. Pourquoi Dieu laisse-t-il disparaître ce qu'il avait lui-même donné ? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième étape. Quand le torrent s'assèche. Donc lecture dans 1 Roi verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Ce verset est très court, pourtant il contient une grande leçon. Remarque que Dieu n'avait pas changé. Sa fidélité n'avait pas changé. Il donnait toujours à manger. Sa promesse n'avait pas changé. Mais le torrent, lui, s'est asséché. Pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas qu'Élie s'attache au torrent. Il voulait qu'il s'attache à Dieu. Et depuis le commencement, Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs. Il cherche des adorateurs et il prend encore toute une vie pour les former. Ce qui est surprenant, c'est que cette sécheresse est la conséquence de la prière d'Élie. Il avait demandé à Dieu de retenir la pluie. Et maintenant, il subit lui-même les conséquences de cette prière. Comme quoi, suivre Dieu ne nous met pas toujours à l'abri des difficultés. Être fidèle ne signifie pas que tout sera facile. Mais cela signifie que Dieu restera fidèle. Et j'aime beaucoup ce que disait un pasteur chrétien britannique du 19e siècle qui s'appelle Meyer. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui et non de ce qu'il nous donne. Voilà un peu toute la leçon du kérite. Le torrent était une bénédiction, mais il ne devait jamais prendre la place du Dieu qui avait donné cette bénédiction. Nous aussi, nous pouvons avoir nos torrents. Une bonne santé, un travail, une situation confortable, un ministère qui fonctionne, des frères et sœurs sur qui nous pouvons compter. Mais si elles deviennent notre sécurité, Dieu peut permettre qu'elles s'assèchent pour nous ramener à lui. Les enfants, j'attire votre attention. Imaginons que vous teniez un ballon gonflé à l'hélium. Vous savez ce que c'est, hein ? Il tient tout seul en l'air. Vous regardez le ballon, mais vous oubliez la main du père de votre papa qui tient la ficelle. Finalement, le plus important, ce n'est pas le ballon, c'est la main qui le tient. Sinon, le ballon s'en va. Et bien, avec Dieu, c'est pareil. Nous regardons parfois les cadeaux que Dieu nous donne. Et nous oublions celui qui nous les donne. Les torrents qui s'assèchent, ne sont pas toujours des punitions. Ils sont parfois des invitations. Une invitation à faire davantage confiance à Dieu. Une invitation à le suivre plus profondément. Parce que Dieu nous aime trop pour que notre foi repose sur les circonstances. Il veut qu'elle repose sur lui. Et retenons encore cette vérité, Dieu enlève parfois une sécurité pour devenir lui-même notre sécurité. Mais alors, lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est jamais pour abandonner ses enfants. À peine le torrent est-il à sec que Dieu parle de nouveau à Élie. Et cette fois, il va l'envoyer dans un endroit complètement inattendu, chez une veuve, dans un pays païen. Une nouvelle étape commence. Une étape où Dieu va encore élargir la foi de son serviteur. Sarepta. Verset 8. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une veuve de cet endroit de te nourrir. Après le kérite, Dieu parle de nouveau à Élie. Et comme souvent, Dieu le surprend et il dit « Va à Sarepta ». Sarepta n'est pas en Israël, c'est un territoire païen. C'est le même pays d'où est originaire Jézabel, la reine qui demandait sa mort. Humainement, c'est le dernier endroit où Élie aurait choisi d'aller. Mais Dieu ne conduit pas ses enfants selon la logique humaine. Il les conduit selon sa sagesse. Depuis le commencement, Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs, il cherche des adorateurs. Dieu ajoute, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie a certainement imaginé une femme aisée, une maison accueillante, une table bien garnie. Mais lorsqu'il arrive, il découvre une femme qui ramasse quelques morceaux de bois. Elle n'a presque plus de farine, presque plus d'huile. Elle prépare ce qu'elle pense être son dernier repas avec son fils. Combien de fois nous imaginons, nous, la manière dont Dieu devrait répondre à nos prières? Nous préparons déjà notre scénario, mais Dieu écrit souvent une autre histoire, une histoire bien meilleure que la nôtre. Alors Élie demande quelque chose qui paraît impossible. Pardon. Il dit à cette veuve, n'aie pas peur, fais-moi d'abord un petit pain. C'est pas sérieux. Cette demande n'est pas sérieuse. Élie arrive, la femme veuve n'a rien, et il lui demande encore de lui donner du pain. Il lui demande de à boire. Pourtant, derrière cette demande, Dieu est en train de travailler les deux cœurs, celui d'Élie et celui de cette femme. Tous les deux doivent apprendre la même leçon, faire confiance avant de voir. La veuve obéit, elle donne le peu qu'elle possède. Et Dieu accomplit sa promesse. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. Dieu ne remplit pas une grange. Il renouvelle la provision chaque jour. Pourquoi ? Parce qu'il veut leur confiance. Il veut que leur confiance se renouvelle chaque jour, elle aussi. Les enfants, imaginez-vous que votre papa vous dise « Fais-moi confiance, je m'occupe de tout. » Vous pouvez continuer à avoir peur ou choisir de lui faire confiance. La veuve a choisi de faire confiance à Dieu et Dieu ne l'a pas abandonnée. Sarepta, l'étape de Sarepta nous apprend une leçon que nous oublions facilement. La foi ne consiste pas à comprendre tout ce que Dieu fait. La foi consiste à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas encore. Élie apprend que Dieu peut agir en dehors de ses habitudes. La veuve apprend que Dieu est capable de pourvoir au-delà de ses ressources. Et nous, acceptons-nous que Dieu agisse d'une manière différente de celle que nous avions imaginée ? Et nous pouvons retenir aussi cette vérité. La foi laisse Dieu choisir la manière dont il répond. Élie a maintenant vu Dieu pourvoir au Kérite. Il a vu agir à Sarepta. Et sa confiance grandit. Mais Dieu va bientôt l'appeler à vivre l'épreuve la plus spectaculaire de toute sa vie. Face au roi, Akab, face au peuple, face au prophète de Baal, le moment est venu de monter au Carmel. Je vais reprendre la lecture de 1 Roi 18 à 16 à 39. Élie se présente devant Akab. Abdias courut donc rejoindre Akab et lui annonce la chose. Alors Akab vint à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il l'aperçut, il lui cria. Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. Et Élie lui répondit, ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Akera, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Combien de temps encore sauterez-vous de vous de deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit, « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous emmène deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux de sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis, vous invoquerez votre Dieu et moi, j'invoquerai l'Éternel. » Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Puis, invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. On leur donna le taureau, ils le prirent et le préparèrent. Puis, ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en répétant « Oh Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient tout autour de l'autel qu'ils avaient dressé.
Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez plus fort ! Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il ? Faut-il le réveiller ?» Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent selon leur coutume des incisions dans la peau, à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée et ils demandèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Alors Élie ordonna à tout le peuple, « Approchez-vous de moi, tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple avança vers lui. » Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'il avait démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré « Tu t'appelleras Israël ». Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis, il déposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna « Remplissez 4 cruches d'eau et répandez-le sur l'Holocauste et sur le bois. » On en fit ainsi. « Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. » Ils le firent. Une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es vivant, qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener le cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant : C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'étape du Carmel. Nous arrivons maintenant à cette étape où certainement c'est l'épisode le plus connu de la vie d'Élie. Nous retenons souvent le feu tombé du ciel. Mais si nous regardons encore de plus près, ce n'est pas le feu qui est le plus important. C'est bien la prière d'Élie. Écoutez bien ce qu'il dit. « J'ai fait tout cela sur ton ordre. » Voilà le secret de sa force. Élie n'agit pas parce qu'il est courageux. Il n'agit pas pour prouver qu'il est un grand prophète. Il agit parce que Dieu lui a parlé. Depuis le commencement, Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs. Il cherche des adorateurs. Remarquez aussi l'objectif de sa prière. Élie ne demande pas « Seigneur, glorifie-moi ». Il prie « Montre aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu ». Puis il ajoute une phrase magnifique « Ramène leur cœur vers toi ». Voilà le véritable combat. Le problème d'Israël n'était pas seulement l'idolâtrie. Le problème était un cœur éloigné de Dieu. Et ce que Dieu désirait plus que tout, c'est ramener son peuple à lui. N'est-ce pas encore son désir aujourd'hui ? Les prophètes de Baal criaient. Ils dansaient, ils se mutilaient, ils faisaient beaucoup de bruit. Puis Élie s'avance simplement, une seule prière, quelques phrases. Et Dieu répond. Pourquoi ? Parce que Dieu ne répond pas au spectacle. Il répond à la foi qui lui obéit. Les enfants, si papa ou maman vous demandent de faire quelque chose, est-ce que vous leur répondrez « Je vais le faire autrement ?»« Oui, mais pas comme ça. » L'obéissance, c'est faire ce qu'il demande. Avec Dieu, c'est pareil. Élie ne fait pas ce qu'il imagine être le meilleur, il fait ce que Dieu lui demande. Ce passage parle aussi à tous ceux qui servent dans l'Église. Il est possible de faire beaucoup de choses, avec beaucoup d'énergie, et pourtant, sans avoir demandé à Dieu ce qu'il attend de nous. Élie nous rappelle encore une vérité essentielle. Le succès dans le service de Dieu ne dépend pas d'abord de notre enthousiasme, il dépend de notre obéissance. Dieu bénit davantage une obéissance simple qu'une grande agitation. Et n'oublions pas jamais cette phrase d'Élie. J'ai fait tout cela sur ton ordre. Puissions-nous, nous aussi, pouvoir dire un jour, Seigneur, je n'ai pas fait ce qu'il me plaît. J'ai cherché à faire ce que tu attendais de moi. Après le feu, Élie pourrait penser que tout est terminé. Le peuple a vu la puissance de Dieu, les prophètes de Baal ont été confondus, mais Élie sait qu'il manque encore quelque chose. Le ciel est toujours fermé. La pluie n'est pas revenue. Alors il remonte sur le Carmel, non pour affronter les hommes, mais encore une fois pour se mettre à genoux devant Dieu. Car le Carmel ne remplace jamais la chambre de prière. Sixième étape. Élie dit à Achab, donc 1 Roi 18, 41, verset 46, « Va manger et boire, car j'entends le bruit d'une forte pluie. » Puis il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » À la septième fois, le serviteur dit, « Je vois un petit nuage, grand comme la main d'un homme, qui monte de la mer. » Alors Élie dit, « Va dire à Achab, attelle ton char et descends avant que la pluie ne t'arrête. » On pourrait passer sur ce passage. C'est une belle histoire. Le feu est tombé. Dieu a répondu. Le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu. Nous pourrions penser que tout est terminé. Mais pour Élie, le plus important commence maintenant. Il monte de nouveau sur le Carmel, non pour être vu, mais pour prier. Et encore une leçon que je ne veux pas oublier. Le Carmel ne remplace jamais la chambre de prière. Une victoire publique ne remplacera jamais une vie cachée avec Dieu. Depuis le commencement, Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs. Il cherche des adorateurs. Élie s'agenouille, puis il demande à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la mer. » Le serviteur revient, il n'y a rien. Alors Élie continue de prier. Une deuxième fois, toujours rien. Une troisième fois, rien. Jusqu'à la septième fois. Pourquoi Élie persévère-t-il? Parce qu'il ne prie pas en fonction de ce qu'il voit. Il prie en fonction de ce que Dieu a promis. Voilà la foi. Jacques nous le dit à son chapitre 5 et au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. La différence n'était pas dans Élie. La différence était dans le Dieu qui répond aux prières. Puis le serviteur revient avec une réponse presque décevante. Je vois un petit nuage, comme la main d'un homme. Il fait un petit nuage. Seulement un petit nuage. Mais Élie comprend immédiatement ce petit nuage est le premier signe que Dieu agit. Les autres voient un nuage, Élie voit une promesse qui commence à s'accomplir. Les enfants, quand vous plantez une graine dans la terre, le lendemain, vous ne voyez pas un grand arbre. Vous ne voyez même pas une toute petite pousse. Pourtant, cette petite pousse annonce déjà le grand arbre. Avec Dieu, c'est souvent pareil. Il commence petit, mais il termine toujours ce qu'il a commencé. Nous aimerions souvent que Dieu réponde immédiatement. Mais Dieu travaille aussi pendant l'attente. L'attente forme notre confiance. L'attente purifie nos motivations. L'attente nous apprend à dépendre de lui. Et lorsque Dieu commence à répondre, ne méprisons jamais les petits commencements. L'apôtre Paul nous rappelle cette magnifique promesse. On l'a dit tout à l'heure. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous la poursuivra jusqu'à son terme, au jour de Jésus-Christ. Alors retenons encore cette vérité. Les autres voient un petit nuage. La foi voit déjà la fidélité de Dieu à l'œuvre. Un dernier détail avant de quitter le Mont Carmel. Avant de passer à la suite, il y a un verset que l'on lit souvent très vite. Rempli de la force que l'Éternel lui donnait, Élie se serra la ceinture autour des reins et courut devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Rempli de la force que l'Éternel lui donnait, Élie serra la ceinture autour de ses reins et courut devant le char d'Akab. Un char. C'est fou quand même. Alors, ça vaut quand même, c'est ça la profondeur de la Bible, parce qu'il court du Carmel à Jisraël. Vous savez combien il y a de distance entre le Carmel et Jisraël ? 42 kilomètres. 42 kilomètres. La distance entre le mont Carmel et Jisraël est d'environ 42 kilomètres. Élie ne se contente pas de courir quelques centaines de mètres en disant « il va pleuvoir ». Il court un marathon. Il ne court pas avec des ASICS. Il est en sandales. Il court devant le char royal, devant des chevaux attelés. La Bible prend soin de nous dire pourquoi. Ce n'est pas grâce à son entraînement. Ce n'est pas grâce à sa condition physique. Le zèle, rempli de la force que l'Éternel lui donnait. Toute la vie d'Élie peut être résumée aussi dans cette phrase. Lorsque Dieu appelle, il donne la force. Lorsque Dieu envoie, il donne les moyens. Lorsque Dieu confie une mission, il donne aussi ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Mais ce verset nous enseigne également une autre leçon. Nous pourrions penser qu'après une telle démonstration de la puissance de Dieu, Élie est devenu inébranlable. Et pourtant, le chapitre suivant commence par la fuite d'Élie dans le désert. Les plus grandes victoires spirituelles ne nous mettent jamais à l'abri de nos faiblesses. Nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Toujours besoin qu'il continue à former nos cœurs. Et là, je vais lire dans 1 Roi 19, versets 1 à 18. C'est Drian ? Akab raconte à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le même sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie, pris de peur, s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et voilà qui cherche à me prendre la vie. » L'Éternel dit. « Sors et tiens-toi sur la montagne. » devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après ce feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nemshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète, pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Azaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Fin de la lecture. Si nous ne connaissons pas la suite de l'histoire, nous aurions du mal à croire qu'il s'agit du même homme. Au chapitre 18, on l'a lu, Élie défie un roi, il affronte les 450 prophètes, il prie, le feu tombe, il court 42 kilomètres, rempli de la force de Dieu. Et au chapitre 19, une seule menace de Jézabel et il fuit. Il s'assit sous un genêt, c'en est assez. Merci. Merci. La Bible est quand même d'une honnêteté incroyable. Elle ne cache jamais les faiblesses de ses héros. Parce qu'elle ne veut nous montrer que le héros n'est pas Élie. Le héros, c'est toujours Dieu. Parce qu'elle veut nous montrer que depuis le commencement, Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs. Il cherche des adorateurs. Remarquez bien la réaction de Dieu. Il ne commence pas à faire un reproche à Élie. Il commence par prendre soin de lui. Il lui donne du repos. Il lui donne de la nourriture. Puis il le conduit jusqu'à Horeb, avant de reprendre son serviteur. Dieu restaure son serviteur. Arrivé à Horeb, Dieu lui pose une question. « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce n'est pas parce que Dieu l'ignore, c'est parce qu'il veut entendre le cœur de son serviteur. Et Élie vide son sac. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, je suis resté moi seul. » En réalité, Élie n'était pas seul. Mais le découragement, souvent, déforme notre regard. Il nous fait croire que tout est perdu, que nous sommes les seuls à servir encore, que Dieu n'agit plus. Voilà pourquoi nous avons besoin que Dieu nous parle. Alors, Dieu se révèle non dans le vent, non dans le tremblement de terre, non dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Au Carmel, Dieu se révèle dans le feu. À Horeb, il se révèle dans le silence. Parce que Dieu ne veut pas seulement impressionner Élie. Il veut toucher son cœur, encore une fois. Puis Dieu relève son serviteur. Il lui confie une nouvelle mission. Il lui apprend qu'il reste 7000 hommes fidèles en Israël. Et surtout, il lui demande d'aller appeler Élisée, d'aller oindre les rois. Élie ne sera plus seulement un prophète, il va devenir un père spirituel. Voilà l'œuvre de Dieu. Dieu ne termine pas le ministère d'Élie, il le fait entrer dans une nouvelle étape, une étape encore plus profonde, plus humble, beaucoup plus féconde. Et cela me fait penser à Pierre. Avant la croix, il était plein de zèle. Il disait, même si tous t'abandonnent, moi, jamais. Et quelques heures plus tard, il renie Jésus. Puis viennent les larmes, et après les larmes, vient la restauration. Jésus ne lui dit pas, Pierre, tu es disqualifié. Il lui demande simplement, m'aimes-tu ? Puis, il lui confie son troupeau. Comme Élie, Pierre découvre que Dieu bâtit son œuvre avec des hommes brisés par sa grâce. Frères et sœurs, peut-être que certains d'entre nous sont aujourd'hui à Horeb, fatigués, découragés, avec l'impression que Dieu ne peut plus se servir d'eux. Mais regardons Élie, Dieu ne l'a pas abandonné, il ne l'a pas remplacé, il l'a restauré, il l'a continué son œuvre en lui. Retenons bien cette vérité encore une fois. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui ne tombent jamais. Il cherche des hommes et des femmes qui acceptent de se laisser relever et transformer par lui. C'est ainsi que Dieu forme ses adorateurs. C'est ainsi qu'il façonne notre cœur. Et c'est pourquoi nous pouvons terminer ce culte avec reconnaissance autour de la table du Seigneur. Car la Sainte Cène nous rappelle que notre espérance ne repose jamais sur notre fidélité, mais sur la fidélité parfaite de Jésus-Christ. Donc nous arrivons maintenant au moment de partager le repas. Et je trouve qu'il y a quand même une continuité incroyable avec tout ce que nous venons de voir. Depuis le début de ce culte, nous avons suivi le parcours d'Élie. Nous avons vu un homme rempli de zèle, un homme que Dieu a puissamment utilisé. Nous avons vu aussi un homme qui a connu la solitude, le doute, la peur et le découragement. Pourquoi Dieu nous montre-t-il aussi ses faiblesses ? Parce qu'il veut nous rappeler que notre espérance ne repose jamais sur un homme, elle repose sur Jésus-Christ. Élie avait besoin de la grâce de Dieu, Pierre avait besoin de la grâce de Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin de cette même grâce. La Sainte Cène nous rappelle que nous ne sommes pas seulement sauvés parce que nous servons bien Dieu. Nous sommes sauvés parce que Jésus, Dieu, nous a aimés le premier. Nous ne venons pas à cette table parce que nous sommes parfaits. Nous venons parce que Christ est parfait. Nous ne venons pas parce que nous avons toujours été fidèles. Nous venons parce que lui est demeuré fidèle. Jusqu'à la croix. L'apôtre Paul écrit ceci aux 1 Corinthiens, 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur l'enseignement que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, conclue par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. En effet, chaque fois que vous en mangez, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alors avant de prendre la coupe, le pain et la coupe, la Bible nous invite aussi à nous examiner nous-mêmes. Non pas pour demander si nous sommes assez bons, personne ne l'est. mais pour venir avec un cœur sincère, un cœur qui reconnaît son besoin de Christ, un cœur qui se repent, un cœur qui veut marcher avec lui. Aujourd'hui, si tu traverses un kérit, si ton torrent est à sec, si tu es peut-être à Sarepta, ou si tu vis un Carmel, ou si tu reconnais davantage, tu te reconnais davantage dans le désert d'Horeb, Jésus t'invite à sa table. Parce que sa grâce est suffisante dans chacune de ces étapes. Le Père cherche toujours des adorateurs. Et c'est précisément ce que Jésus est venu rendre possible. Par sa mort et sa résurrection, il nous réconcilie avec le Père. Il fait de nous ses enfants. Et le Saint-Esprit poursuit ensuite son œuvre dans nos vies, jour après jour, pour nous rendre toujours plus semblables à Christ. Voilà notre espérance. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre zèle. Ce n'est pas notre fidélité. C'est Jésus-Christ. Alors approchons-nous de cette table avec reconnaissance. Recevons le pain en nous souvenant que son corps a été livré pour nous. Recevons la coupe en nous souvenant que son sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Et repartons avec cette certitude que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter les frères que j'ai désignés au début du culte à me rejoindre pour distribuer la scène.